Dans la correspondance de Victor Hugo à l'aube des années 1860, on trouve ces mots qui résonnent aujourd'hui. Un seul esclave sur la terre suffit pour déshonorer la liberté de tous les hommes. Avant la fin du siècle, l'esclavage aura disparu de la terre. La liberté est la loi humaine. La barbarie recule, la civilisation avance. Quand on lit ces mots écrits il y a un siècle et demi aujourd'hui, quel sentiment nous envahit? À l'heure où l'on sait que se perpétuent pas si loin d'ici les mêmes crimes contre l'humanité, à l'heure où l'on a vu forcément ces images d'un marché aux esclaves de migrants africains en Libye, à l'heure où l'on ne peut plus faire semblant de ne pas savoir ce que disent et dénoncent depuis des années nombre d'ONG. C'est pas seulement l'indignation ou la colère qui nous envahit, c'est aussi la honte. La honte d'avoir failli, la honte de laisser faire, la honte de devoir aller chercher la sagesse dans les textes et les espoirs d'hier. La honte que tous les États membres de l'Union européenne n'aient pas encore agi dans le seul but de protéger les frontières. Faut-il leur envoyer ces mots de Victor Hugo il y a un siècle et demi? Un seul esclave sur la terre suffit pour déshonorer la liberté de tous les hommes.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Mon invité aujourd'hui est comédienne. Elle incarne par ses rôles comme par sa parole une certaine idée de l'humanisme. Elle sera la semaine prochaine à l'affiche de La Villa, nouveau film de Robert Guédiguian dont elle est depuis longtemps la compagne de route, un fil qui interroge notre humanisme et les liens qui nous unissent. C'est le récit d'un retour au pays suite à un drame familial face à cette Méditerranée qu'elle connaît si bien. Bonjour Ariane Ascaride.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Quand vous avez vu d'abord ces images, ou entendu peut-être ce scandale libyen, par quel sentiment est-ce que vous avez été envahie?
Vous savez, c'était terrible parce que je me suis regardée dans la glace et je me suis dit « Mais comment tu peux accepter de continuer à vivre dans un monde où on peut faire une chose pareille ?»
Alors comment on fait, précisément?
Eh bien, comment on fait, je ne sais pas très bien. Je sais simplement que j'ai juste envie de dire à votre micro, comme ça, ou peut-être aux gens qui sont en train de nous écouter, là maintenant, qui se brossent les dents en se regardant dans leur miroir, ça va, vous vous brossez les dents tranquillement, tout va bien. Moi, c'est ça que j'ai envie de dire. Parce que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais comment je peux continuer à faire mon quotidien? Comment on peut vendre des gens? Vous savez, je pense beaucoup à mon amie Véronique Olmy, qui a écrit un livre qui s'appelle Bakita. Et Bakita, ça raconte l'histoire d'une esclave. J'ai envie de dire à ces gens, allez donc acheter ce livre. Lisez ce que c'est que de vivre comme un esclave. Essayez de comprendre ce que ça veut dire que d'un coup être vécu comme une marchandise. Une marchandise. Ce sont des gens qui ont deux jambes, deux bras, une tête, un cœur, un estomac. Ils sont comme vous. Comment on peut faire ça? Voilà.
Avant-hier, les organisations de soutien aux réfugiés se sont réunies pour dénoncer l'attitude de l'État en matière de politique migratoire et rappeler leur principe d'accueil inconditionnel. Ce thème de l'accueil, il est central dans La Villa, où Robert Guédiguian interroge notamment le rôle de l'armée qui piste les réfugiés échoués sur la côte. Ça fait du film un geste politique, Ariane Ascaride, et c'est une conception du cinéma.
Oui, je pense que Guédiguian a toujours fait des films pour raconter aussi son regard sur le monde dans lequel il est en train de vivre. Et vous savez, moi j'ai toujours dit que les films de Robert, c'est comme un journal intime. C'est-à-dire que, en fait, vous pouvez savoir à peu près l'état dans lequel est Robert en regardant ses films. Chaque film raconte comment il se positionne socialement et historiquement à un moment donné bien précis quand il fait ce film-là.
Alors est-ce quand on joue dans un film comme celui-ci, c'est aussi dans l'espoir de faire avancer les choses?
Je sais plus, vous savez, en fait, aujourd'hui, je suis tellement troublée par ce qui se passe dans le monde, tellement troublée par le fait qu'il y ait des tas d'annonces comme ça, des positions politiques qui soient prises, mais derrière, ça ne suit pas. Vous voyez? Donc j'avoue sincèrement, je suis un peu perdue. Alors, moi, à ma toute petite échelle, j'essaie de raconter des histoires aux gens pour que peut-être, ils soient émus, mais aussi que ça les fasse réfléchir. Il faut qu'on réfléchisse quand même. On peut pas continuer, on peut pas laisser un monde pareil à nos enfants, à nos petits-enfants. On est responsable, non? Non, on n'est pas responsable.
Si. Ah. Quand vous regardez la Méditerranée aujourd'hui, cette mer que vous connaissez bien pour avoir grandi à Marseille, qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui?
Qu'est-ce que je vois aujourd'hui? Je vois des gens qui continuent à faire des promenades en hors-bord. Des gens qui se baignent, des gens qui sont dans une aisance, parce que quand même, qu'on le veuille ou non, on vit dans un monde où ça va quand même, hein, la France, ça va quand même, on part en vacances. Et puis, un peu plus loin, je vois, vous savez, je sais pas, peut-être vous avez vu sur Internet cette séquence absolument incroyable des gens qui sont sur une plage en Espagne.
Oui.
Et puis d'un coup, il arrive comme ça, un pneumatique, un bateau pneumatique, et il y a des tas de réfugiés qui arrivent, qui accostent sur la plage, qui sortent du bateau en courant et qui se mettent à courir au milieu d'autres gens qui sont en vacances, en maillot de bain. Il y a la confrontation entre ces deux mondes m'a complètement abasourdie, quoi.
Et votre personnage, lorsqu'elle arrive dans le village, qui est celui où elle a passé une grande partie de sa vie, avant de devoir le quitter pour des raisons qu'on ne divulguera pas, qu'est-ce qu'elle voit dans ce paysage, elle ?
Elle voit ce qu'elle ne veut pas voir.
C'est-à-dire ?
Elle voit tout ce qui est son enfance, tout ce qui lui renvoie aussi des moments de bonheur, vous voyez ? Mais ces moments de bonheur sont entachés par un drame. Et vous savez, c'est ces moments-là où on arrive dans un lieu qu'on connaît très très bien, même si on ne l'a plus vu depuis très longtemps, et où toute l'émotion de ce qui vous a fait, ce qui vous structure, vous saute à la figure, et en même temps, c'est l'endroit où vous avez aussi terriblement souffert. Donc c'est encore une fois cette confrontation entre ces deux choses, et c'est ça qui fait qu'elle est si fermée.
Vous l'avez jamais quitté, cette Provence, Ariane Ascaride. Comment
vous
l'avez vu ?
Moi, je n'ai pas quitté Marseille, je ne suis pas provençale.
Oui,
voyez,
c'est vrai.
C'est vraiment une chose différente. J'adore la Provence, c'est pas ça que je veux dire. Mais moi, je suis une Marseillaise. Marseille, c'est une ville-monde.
Et comment vous l'avez vu évoluer, justement, Marseille ?
Je ne sais pas. Enfin, oui, elle évolue. Mais en même temps, c'est une ville incroyable, Marseille. Parce que c'est une ville qui vous attire, qui vous repousse. C'est une ville où c'est très difficile d'y faire sa place. Il y a des tas de gens qui maintenant veulent aller à Marseille et tout ça. Et puis, ils se rendent compte que les Marseillais sont pas si ouverts que ça. Au bout d'un an ou deux, ils se disent, ah, mais mince, alors j'ai rien compris. Comment ça se fait? J'arrive pas à avoir des amis. J'arrive pas à entrer. Parce que les Marseillais vous accueillent toujours. Bonjour, comment ça va? Et puis après, ce sont des gens beaucoup plus compliqués. Mais en même temps, c'est une ville que j'adore parce que c'est une ville de mixité. Vous savez, moi, quand je suis arrivée à Paris, j'étais jeune fille au pair dans le 7e arrondissement de Paris. Et j'étais très perturbée, j'avais très peur parce qu'il n'y avait que des Blancs. Je ne comprenais pas. J'arrivais pas à maîtriser cette chose-là. Moi, je suis quelqu'un qui vient de la mixité. Je suis moi-même issue de l'immigration. Donc, c'est pour ça aussi que j'aime cette ville-là.
Je vous pose la question de la transformation aussi, Ariane Ascaride, parce que c'est l'un des thèmes que soulève Robert Guédiguian. Le village où se trouve la villa du père de votre personnage a beaucoup changé. Il s'est presque vidé de ses habitants. Il fait l'objet de spéculations immobilières. C'était le lieu d'une utopie collective disparue, d'une utopie de gauche, en fait. Est-ce à dire que la gauche appartient au passé ? C'est peut-être une façon de lire le film.
Oui, mais je ne pourrais jamais penser ça. Je n'y arriverai jamais. En tout cas, une certaine gauche peut-être appartient au passé, ça c'est sûr. Mais je crois qu'il y aura toujours, parce que je veux le croire et parce que je crois que j'ai raison, il y aura toujours des gens, des hommes, des femmes qui auront un humanisme immense en eux et qui continueront à regarder les autres. Vous savez, ce qui est important, c'est de regarder les autres, d'écouter les autres. Et parce que ce qu'il faut bien savoir, c'est que quand on regarde et qu'on écoute les autres, on apprend.
Quel personnage de votre frère dans le film, joué par Jean-Pierre Darroussin, qui passe son temps à dire que c'était mieux avant?
Mais c'est un peu, c'est une espèce de... Il est caustique, hein, oui. C'est un personnage très caustique. En fait, il dit tout le temps, c'est mieux avant. Oui, il y avait des choses qui étaient mieux avant, je suis désolée. Il y a des trucs, il faut le dire, c'est-à-dire que la relation entre les gens... C'est-à-dire que cette famille, elle fait partie d'un monde qui est le monde populaire, qui est le monde ouvrier, et où à l'intérieur de ce monde-là, il y avait une véritable culture. Et quand je dis culture, c'est-à-dire des rapports entre les gens, et même une culture musicale, où on lisait certains livres et pas d'autres, voilà. Et il y avait aussi un rapport de lien entre les gens. Les gens étaient liés, les gens avaient une dignité, ils étaient fiers de ce qu'ils étaient. Ils n'étaient pas des bourgeois, ils n'enviaient pas les bourgeois. Ils n'enviaient pas de vouloir être absolument comme les autres là-bas. Aujourd'hui, tout le monde veut ressembler à la même image. Et c'est ça qui est terrible. Parce que c'est formidable la dignité populaire, vous savez. C'est une chose extraordinaire. Moi, j'ai été élevée là-dedans. Moi, j'ai y a des hommes et des femmes qui m'ont appris à être ce que je suis.
En quoi vous croyez, Ariane Ascaride ?
Je crois en l'homme, fondamentalement. Je crois en la lumière qu'il y a en l'homme. J'ai été élevée là-dedans. Je suis sûre que dans chaque homme et chaque femme, il y a un côté lumineux, un côté absolument sublimissime. Vous savez, je crois en ces personnages des peintures du Caravage. Voilà en quoi je crois.
Et puis au lien aussi, je crois, au lien humain que vous avez cité. Je vais vous dire, moi je pense que ce film, il ne parle que de cela, du lien. Il y a cette scène absolument bouleversante où deux enfants se tiennent par la main et refusent de se lâcher. Vous nous la racontez, cette scène.
Alors, en fait, c'était incroyable parce qu'un jour, Robert, il était en écriture, tout ça, il me dit, je crois qu'il y a un truc, je vais faire un truc. Les petits, ils ne veulent pas se lâcher, mais parce que il s'était raconté que les parents avaient dû leur dire, il faut pas vous lâcher parce qu'il ne faut pas vous perdre. Il faut pas se perdre. Alors là, il le signifie par cette prise de main, les deux gamins se tiennent. Donc on est obligé de leur découper leur pullover parce qu'ils ne veulent pas se lâcher. On peut pas leur enlever leur pullover qui sont mouillés parce que voilà, ils étaient dans la colline.
Ce sont des enfants réfugiés.
Ce sont des enfants réfugiés et ils se tiennent tout le temps. Ils ne parlent pas, ils disent pas un mot. Ils se tiennent. Et vous savez, un jour, avant de tourner, presque un an avant de tourner, on est allé à Rome et dans un musée, on a vu un artiste, malheureusement je ne me rappelle pas son nom, qui avait fait une œuvre, c'était absolument génial. C'était deux pullovers qui étaient liés. Les deux manches d'un côté étaient liées. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai dit à Robert, mais regarde! Et là, je me suis dit qu'effectivement, on était plusieurs à penser ça. C'est ça qui me plaît. Parce que je suis sûre, si ça vous émeut, ça veut dire qu'effectivement, on est nombreux à pouvoir penser qu'en se tenant la main, on peut faire reculer les choses.
Celle qui nous tient la main dans cette émission, vous la connaissez évidemment, c'est la culture et son actualité liante comme le blanc d'œuf. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 23 novembre ? Pluie violette pour Nuit Blanche, ce soir dans toute la France, près de 200 salles de ciné Pathé diffuseront en projection unique un concert mythique de Prince, capté lors de sa tournée Sign of the Times de 1987. Le film, réalisé par Prince lui-même, alterne prestations live et courtes séquences fictionnelles et montre le point d'acmé créatif, esthétique, sensuel du kid de Minneapolis, Show Devant.
Je crois qu'un des plus beaux proverbes qui est en Auvergnat, je vais vous le dire en français naturellement, c'est celui-ci, les peines de cœur, les peines sont bonnes avec du pain.
À l'émotion, l'écrivain Jean Anglade, c'était un mercredi à Clermont-Ferrand, il avait 102 ans, auteur d'une œuvre monumentale, vendue à des millions d'exemplaires. Jean Anglade restera comme le conteur d'une Auvergne ouvrière et spirituelle. Depuis 1952, son premier roman Chien du Seigneur, il avait signé près de 100 livres. Le dernier, Le Grand Dérangement, était sorti en 2015, l'année de son centenaire. Et toutes ses dents pour fêter 3 décennies de prescription culturelle, le Festival des Inrocks étoffe sa programmation. En plus des concerts d'IBI ou de Moudoï, l'édition anniversaire s'ouvre au cinéma, à la littérature, aux arts et même à la cuisine. Au programme des rencontres, des débats, des projets, c'est à la Gaîté Lyrique et au Casino de Paris. C'est gratuit, on dit oui.
C'est un livre sur la France, sur une certaine conception de la France qui est liée à l'honneur.
Joli doublé pour Jean-René, déjà lauréat du prix Jean Giono. L'écrivain Jean-René van der Platzen a également décroché hier le prix Interallié pour La nostalgie de l'honneur, paru chez Grasset. Témoignant de conversations avec son grand-père, le général Crépin, le livre évoque la résistance et la guerre, le respect du passé, de la grandeur, de l'honneur. Vive Jean-René et vive la France! Ariane Ascaride, invitée de Boomerang ce matin pour La Villa, le nouveau film de Robert Guédiguian, donc l'histoire d'une famille qui se retrouve dans la villa familiale, une calanque, près de Marseille, à Méjean plus exactement. Ce lieu, vous le connaissiez déjà. Il y a dans le film une scène incroyable, tournée à Méjean au milieu des années 80 et tirée d'un film passé de Robert Guédiguian, Kilossa, où l'on vous retrouve, ainsi que Jean-Pierre Darroussin et Gérard Mélan notamment. C'est comme un souvenir, ça vient brusquement, ça se coupe d'un coup comme c'est arrivé. C'est absolument bouleversant. Quel sens est-ce que ça a pour vous de voir ces images d'un autre film du passé intégrées ici ?
Le premier sens que ça a, c'est que je suis, mais vous n'imaginez pas à quel point fière que notre amitié est tenue comme ça et qu'elle tiendra jusqu'à ce qu'on meure. C'est la seule chose dont je suis sûre dans la vie. Et ça, vous voyez, quand d'un coup... Moi-même, quand j'ai vu le film pour la première fois, quand j'ai vu ça, c'était un sentiment tellement fort, une émotion tellement immense. Et j'étais tellement heureuse de revoir Jean-Pierre, Gérard, comme ça. Et d'un coup, je me suis rappelée immédiatement, exactement, j'avais dans mon corps, c'est mon corps qui a fonctionné, je me suis rappelée exactement comment nous étions quand nous avons tourné la séquence.
C'est fort ce que vous dites, Ariane Ascari, quand vous parlez d'amitié, parce qu'effectivement, ce qui frappe, c'est aussi la cohérence, la constance de ce cinéma, et une certaine fidélité envers ses acteurs, mais aussi envers des idées.
Oui.
C'est aussi ça qui se joue dans cette scène, non ?
Oui, absolument. Mais absolument, c'est-à-dire que ce qui est formidable, c'est qu'il ait pu, que Guy de Guillon ait pu aller chercher une séquence d'il y a, de 1985, oui. Et que ça fonctionne,
oui.
Et que ce soit crédible dans ce film de 2017. Ce qui veut dire que ce que nous sommes et ce que nous avons continué à raconter est, cohérent complètement, quoi.
Quand vous l'avez rencontré, ce Guy de Guillon,
oui.
Vous saviez qu'il allait vous filmer toute votre vie?
Bah, pas du tout, parce que si vous savez, si Guy de Guillon fait du cinéma, c'est ma faute. Parce qu'il n'était pas du tout parti pour faire du cinéma. C'est parce que moi, je suis entrée au conservatoire. Enfin, on s'est rencontrés à l'université, où j'étais venue faire un discours, où après, il m'a dit bien parler. Et où j'ai dit quel est ce con. Voilà, ça a commencé comme ça la première fois qu'on s'est vu. Et puis, après, moi, je suis rentrée au conservatoire, il m'a suivie à Paris. Et parce que j'avais fait un film avec René Ferré qui s'appelait La Communion Solennelle, Robert a rencontré René Ferré, enfin tout ça a démarré comme ça. Donc il me le doit, vous voyez, il me le doit tout ça.
Et quand il vous a filmé pour la première fois, ouais. Comment ça s'est passé, vous en souvenez?
On s'est disputé tout le temps.
Oh.
On s'est absolument disputé tout le temps. Parce que ce qui est génial chez ce garçon, c'est qu'un jour il a dit je vais faire un film, je savais pas ce que c'était, un changement d'axe, des choses comme ça. C'est ça qui est génial. Et qu'il avait une script absolument formidable, ça s'appelait Hélène Viard, qui l'a vraiment aidé, et un chef opérateur qui s'appelait Gilberto Azevedo. Et c'est grâce à eux qu'il est arrivé à comprendre comment marchait le cinéma. Mais après, vous savez, comme les gens intelligents, il va être content parce que là, je dis qu'il est intelligent. Comme les gens intelligents, ils vont très vite, ils apprennent très très vite et hop, après, ils font des propositions. Mais la première fois qu'on a travaillé ensemble, ça a été un carnage.
Comment vous avez l'impression qu'il vous regarde?
En fait, Robert me dit des choses quand on fait des films ensemble.
Et comment est-ce que vous le regardez, vous?
Je vais vous dire, on a toujours eu un rapport qui est basé un peu sur l'humour et aussi la confrontation. Voilà. Et je crois que c'est un homme absolument génial. Et quand je dis génial, c'est pas qu'il est... c'est surtout un homme d'une humanité inimaginable. Mais inimaginable.
Pourquoi je vous parle de regards, Ariane Ascari? Parce que pour moi, c'est central dans ce cinéma, les regards échangés,
ouais.
Les regards à la dérobée. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau?
Mais parce que Robert, sur un tournage, il ne parle pas.
Ouais.
Il regarde, il nous regarde, on se regarde, on le regarde.
Mais ça, c'est un acte de résistance, parce qu'aujourd'hui, vous avez remarqué, on ne se regarde plus.
Bah oui, mais...
De moins en moins.
Oui, moi, vous savez, je finirai sur un banc, quand je serai très vieille, sur un banc, je regarderai passer les gens. Parce qu'il n'y a que ça qui m'intéresse dans la vie, c'est regarder les gens.
Ça sert à ça aussi, le cinéma, étrangement, à échanger des regards.
Bien sûr, le cinéma, vous savez, on dit souvent, le point de vue d'un réalisateur, le point de vue, c'est l'endroit où on se place pour regarder le monde. Donc c'est la manière dont on regarde le monde.
Ah, je vous propose qu'on s'y mette sur le banc là maintenant, tout de suite, et qu'on se regarde, tiens, droit dans les yeux, sur les mots de Bob Dylan, évidemment, qui accompagne ces images d'archives dans la villa. C'est un moment de grâce du film. Vous pourriez presque n'y aller que pour cette scène, I Want You. Vous êtes sur France Inter avec Ariane Ascari. Vous écoutez Boomerang un jeudi matin. Guilty and the ticket signs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gates for you. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. Fathers, they've gone down. True love, they've been without it. But all their daughters put me down, 'cause I don't think about it. Well, I return to the queen of spades and talk with my chambermaid. She knows they're
But I did it because you lied, because he took you for a ride, because time is on his side, and because I want you, I want you, yes, I want you so bad, honey, I want you.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Évidemment qu'on la veut, I want you, on la veut dans son studio, mais aussi dans son salon, au coin de la cheminée ou à dîner, à son chevet, lorsqu'on est cloué au lit pour cause de varicelle, à table, en terrasse, autour d'une bouillabaisse ou d'une pizza, à côté de soi au cinéma ou au théâtre pour la voir rire, pleurer, crier. On en veut de l'œil de biche caniculaire, du sourire bienveillant de Joconde, du geste souple, précis et rond, de la crinière indomptable, on en veut du câlin, avec son élégance ce matin, avec ses petites lunettes rondes, sa veste ajustée, sa broche scintillante, sa jupe longue, ses souliers vernis noir et blanc quelque part entre la maîtresse d'école, George Sand et Sarah Bernhardt, Ariane Ascaride, invitée de Boomerang, donc pardon, j'en perds mes mots, pour La Villa de Robert Guédiguian. Vous y jouez une femme qui revient au bercail, dans la maison de son père, on le disait, qui vient d'avoir un accident, et elle y retrouve ses deux frères, un endroit qu'elle a voulu oublier, et surtout elle est comédienne. Pourquoi c'était important qu'elle le soit, à votre avis, comédienne?
Mais alors ça, je crois que c'est parce qu'au départ, quand Robert a voulu écrire ce film, il a beaucoup pensé à Tchekhov et à La Cerisaie, et qui est effectivement une pièce de Tchekhov qu'il adore.
Sur de famille.
Et sur la famille, et elle est comédienne, Lyubov. Et donc, ça, c'est venu. Et ça, ce qui a été aussi... quand je vous dis que Robert me parle dans les films, c'était formidable, parce que dans ce film, à un moment donné, je dis, je ne jouerai jamais Claudel, parce que... pour jouer Claudel, il faut être blonde, il faut être grande, il faut avoir les yeux bleus. Et ça, c'est vrai que de fait, dans ma vie, ça s'est produit. La seule personne qui m'a obligée à travailler Claudel s'appelait Antoine Vitesse. Et en me disant, tu vois, là, c'est ça. Là, tu progresses. C'est une chose que j'ai jamais oubliée de la part d'Antoine, parce que effectivement, pour personne, on peut penser que je peux jouer Claudel.
Quand est-ce que vous avez compris que c'était possible d'être quelqu'un d'autre, ne serait-ce que durant quelques heures? Ce sont les mots magnifiques du personnage du jeune pêcheur joué par Robinson Stevenin dans le film, qui dit ce que c'est que d'être comédien.
J'ai jamais compris. Parce que moi, toute petite, mon père faisait du théâtre amateur et il m'a mis sur une scène, j'avais 8 ans. La seule chose que je savais et que je cherche depuis, c'est que c'était tellement simple pour moi de jouer avec tous ces adultes, parce que je jouais avec des adultes, parce que pour moi, c'était comme la cour de la récréation. Vous savez, les enfants, ils disent « Alors à ce moment-là, tu ferais ça ?» Et il le fait. Et nous, c'est ça qu'on fait. Mais à part qu'en grandissant, on a la conscience. Donc on se dit, là là, il faut le faire bien. Et donc à partir du moment où on se dit qu'il faut le faire bien, on commence à se poser des questions et on doute en se disant, c'est peut-être pas bien. Et peut-être que tel metteur en scène préférera comme ça ou tel metteur en scène préférera comme ça. Et donc on est complètement perturbé. Et en fait, c'est pas un métier, c'est ma manière d'appréhender la réalité, c'est tout. Mais... Je ne l'ai pas choisi, vous voyez ce que je veux dire? Je me rends compte, ça fait pas très longtemps que je me rends compte de ça, que je ne l'ai pas choisi.
Mais ça peut se faire, toujours, Ariane Ascaride. Oui. Et ça peut se faire en lisant du Claudel, en disant du Claudel, dans un film de Robert Guédiguian.
C'est ainsi qu'ils viennent au théâtre la nuit. Je les regarde. Et la salle n'est rien que de la chair vivante et habillée. Ils garnissent les murs comme des mouches jusqu'au plafond. Et je vois ces centaines de visages blancs. L'homme s'ennuie. Et l'ignorance lui est attachée depuis sa naissance. Et ne sachant de rien comment cela commence ou finit, c'est pour cela qu'il va au théâtre.
C'est donc un extrait de l'échange de Paul Claudel récité à deux voix, la vôtre, Ariane Ascaride, et celle de Robinson Stévenin, pour décrire ce qu'est pour vous le théâtre. Et est-ce que vous aussi, vous avez toujours eu besoin des mots des autres? C'est la question que je me suis posée.
Ben, en fait, beaucoup, oui. Et même, je crois que j'ai une certaine pudeur à me servir des miens, vous voyez. Petit exemple, j'ai fait un spectacle qui s'appelle Touché par les fées, qui était un spectacle où je racontais aux gens, que les gens peuvent toujours me demander mais comment ça se fait que vous faites ce métier, nanani, nanana. Bon, comme j'ai une famille qui est un peu assez lent l'air, j'ai demandé à Marie Desplechin. C'est-à-dire que je racontais des choses à Marie, et Marie après a écrit. Et pour moi, c'était très important qu'il y ait un auteur. J'adore rentrer dans les mots des auteurs. C'est un truc qui me plaît beaucoup.
Pourquoi vous y allez, vous, au théâtre?
Ah, j'y vais pour avoir des émotions démoniaques. Mais c'est difficile, ces temps. La dernière émotion, c'est pas vraiment du théâtre. Elle s'appelle Gérard Depardieu.
Quand il chante Barbara?
Je l'ai vu ici, à France Inter. J'ai vu le concert ici, à France Inter. À partir de la troisième chanson, j'ai commencé à pleurer. Et j'ai pleuré jusqu'à la fin. Et ce qui m'a fascinée, et pas fascinée, parce que je trouve que c'est là où il est, où c'est juste... Gérard Depardieu est certainement un des plus grands auteurs du monde, un des plus grands acteurs du monde. Vous voyez, j'ai dit auteur, c'est pas un hasard.
Parce que c'est un créateur.
Parce que c'est un créateur. Et un acteur, c'est un créateur. Et l'humilité avec laquelle il raconte, et la pudeur avec laquelle il raconte son amitié pour Barbara, fait que quand il chante, c'est ça qui est génial. C'est là où on voit un grand acteur. Barbara, elle est juste à côté. Tout le temps. Il est là, mais elle est là.
J'ai envie, si vous le voulez bien, que vous fassiez exister quelqu'un aussi ce matin, en nous faisant entendre un texte peut-être, le discours de Stockholm qu'a prononcé Albert Camus en 1957, lors de la remise de son prix Nobel. C'est le texte que vous avez choisi, pourquoi lui?
Parce que j'adore Albert Camus, parce que quand j'ai lu, surtout, j'avais lu plein de trucs, L'étranger, La peste, tout ça, mais quand j'ai lu Le premier homme, je comprenais tout ce qu'il disait, je sais pas comment vous expliquer ça. Je sentais l'odeur de la maison de sa mère. Voilà, c'est un peu prétentieux, mais voilà, c'est comme ça. Alors je vais vous lire ça. Mais c'est un petit bout, hein, j'ai pas tout parce que c'est trop long. Je ne puis vivre personnellement sans mon art, mais je n'ai jamais placé cet art au-dessus de tout. S'il m'est nécessaire, au contraire, c'est qu'il ne se sépare de personne et me permet de vivre tel que je suis, au niveau de tous. L'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un vrai moyen d'émouvoir le grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. Il oblige donc l'artiste à ne pas s'isoler. Il le soumet à la vérité la plus humble et la plus universelle. Et celui qui, souvent, a choisi son destin d'artiste parce qu'il se sentait différent, apprend bien vite qu'il ne nourrira son art et sa différence, qu'en avouant sa ressemblance avec tous. L'artiste se forge dans cet aller-retour perpétuel de lui aux autres, à mi-chemin de la beauté dont il ne peut se passer et de la communauté à laquelle il ne peut s'arracher. C'est pourquoi les vrais artistes ne méprisent rien. Ils s'obligent à comprendre au lieu de juger. Et s'ils ont un parti à prendre en ce monde, ce ne peut être que celui d'une société où, selon le grand mot de Nietzsche, ne régnera plus le juge, mais le créateur, qu'il soit travailleur ou intellectuel. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse.
Merci infiniment, Ariane Ascaride, d'être venue faire un tour dans Boomerang, d'avoir fait pleurer Lola Costantini et moi derrière la vitre du studio. Et je rappelle que La Villa de Robert Guédiguian, avec Jean-Pierre Darroussin, Gérard Mélan, Anaïs de Moustier, Fred Ulysse, entre autres, sort mercredi. C'est un très beau film. Et un film France Inter, tout de suite, Les Médias. Sonia De Villers, juste
après
ça.
C'est moi qui vous remercie. Ah.
Regardez-la danser quand elle s'approche du ring. La boxeuse amoureuse, la boxeuse amoureuse, sur ses gants dorés, des traces de sang, de larmes et de sueur, et de sang, et de sang. Elle esquive les coups, la boxeuse amoureuse. Elle absorbe tout, la boxeuse amoureuse. Boum boum la supercute, percute son visage, mais jamais elle ne cesse de danser, tomber ce n'est rien, puisqu'elle se relève, un sourire sur les lèvres, un sourire sur les lèvres.
Amoureuse, Arthur H sur France Inter, et c'est l'heure de l'instant M avec Sonia.